Dear fellow feminists,
I'm here for all of the witches.
Pourquoi le féminisme?
Les femmes sont conditionnées à servir les autres et à ne pas s'occuper d'elles-mêmes.
Ah, je t'avais dit, elles en veulent au mec.
Le féminisme a donné aux femmes dès qu'elles pouvaient avoir droit au bonheur.
On est dans un pays où un violeur sur 100 est condamné.
Il y a un problème avec monsieur.
Non, il n'y a pas de problème.
Nous aussi, on se lève et on se bat.
Pas du clito.
Le chemin est long en tant que femme noire, en tant que femme grosse.
Bim, c'est encore la faute du patriarcat.
Encore une fois, c'est pas de la libération de la parole, c'est de la libération de l'écoute.
Il y a une violence systémique qui est faite aux femmes.
On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission d'On se lève et on se casse en ce début d'année 2025 qui a commencé sur les chapeaux de roue. Pour nous, en tout cas, on espère que vous avez eu une fin d'année en bonne compagnie, que ce soit la vôtre ou celle de personnes que vous aimez. Nous, on a un peu l'impression de commencer cette année dans les marécages. Mais on va continuer de faire ce qu'on fait à chaque fois, se lever et se casser pour créer nos espaces de réflexion contre ce patriarcat qui tourne décidément bien en rond. Aujourd'hui, c'est une émission que je présente en solo et je pense fort à Marion qui n'a pas pu m'accompagner aujourd'hui. C'est donc notre quatrième émission de la saison et pour celle-ci, nous allons parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, les conditions des enfants dans notre société, plus particulièrement la domination des adultes sur les enfants et la culture de l'inceste. Pourquoi ces questions doivent être un enjeu féministe central aujourd'hui? On va voir ça ensemble.
On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
Ce soir, on accueille deux invités pour parler de tout ça. Bonsoir Cécile.
Bonsoir.
Vous êtes autrice et dessinatrice de l'ouvrage « Ce que Cécile sait », journal d'une sortie d'inceste aux éditions Marabout, publié en septembre 2024. Vous y racontez à la fois votre histoire familiale, tout en analysant les ressorts et les mécanismes de la culture de l'inceste et du système inceste dans notre société. Avec nous ce soir, nous avons aussi Marion Pollert. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous faites partie du collectif d'amis qui ont permis de publier le travail du chercheur Tal Peter Bromerks intitulé « La domination oubliée, politiser les rapports adultes-enfants » en octobre 2024 aux éditions Blast après son décès en 2021. C'est un travail exigeant dans lequel Tal Peter Bromerks critique la condition naturelle de vulnérabilité de l'enfant, la naturalisation de la vulnérabilité de l'enfant et critique aussi les systèmes politiques dans lesquels on construit les enfants comme des êtres vulnérables et fragiles, dépendants en tout des adultes. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc c'est un chiffre vertigineux et comme vous le dites, Cécile C, dans votre ouvrage, c'est un chiffre qui bizarrement nous sort vite de l'esprit. On le voit, on l'entend, c'est trop dur et on oublie. Ce chiffre, c'est celui-ci. Un enfant sur cinq est victime de violences sexuelles en France. Accrochez-vous. Et encore ça, ce sont des chiffres sous-évalués. Édouard Durand, qui signe une préface de votre ouvrage, Cécile C, a écrit un manifeste criant, un tract Gallimard, en janvier 2024. Il commence comme ça. En France, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année. Et 50% de ces violences relèvent de l'inceste. Ça veut dire qu'elles sont commises au sein de la famille. 50% d'entre elles. Pour moi, ça en soi, c'est suffisant pour expliquer pourquoi on va parler de ça aujourd'hui. Mais apparemment, ça ne l'est pas pour tout le monde. Alors, première question. C'est d'ordre général, ça vous concerne tous les deux. Sur la forme que ces deux ouvrages respectifs prennent, ils prennent des formes très différentes, un récit graphique d'un côté, un travail de recherche très poussé de l'autre, mais ces deux ouvrages interrogent la manière dont la domination sur les enfants est pensée, représentée, comment on y répond, comment on y réagit. D'abord, la thèse de Tal permet d'aborder comment on naturalise la vulnérabilité de l'enfant, sa fragilité, comment on naturalise le fait qu'il est dominé par un adulte pour le protéger. Et donc Tal critique ce système politique, cette institution politique qu'est la famille, comme vraiment pas conçue pour correctement protéger l'enfant, c'est ça ?
Bah, non seulement pas conçue pour protéger correctement l'enfant, mais le premier lieu en fait, où ces violences sont perpétrées. Donc à partir de là, on peut dire que même si la thèse de Tal, c'est une thèse de philosophie au départ et qui fait de la place à des discipline empirique, c'est vrai que là c'est un endroit où les statistiques ont leur poids puisqu'en fait c'est un peu le levier sur lequel Tal va appuyer pour se poser la question, mais alors dans ce cas, est-ce que vraiment les enfants sont fragiles, donc la famille est appelée à le protéger, ou est-ce que plutôt la famille c'est une institution qui s'appuie sur cette prétendue vulnérabilité de l'enfant, ou en tout cas la façon dont elle est travaillée, qui légitime en fait l'institution de la famille, mais aussi qui fait de la place à ces violences-là.
Et Cécile, donc vous êtes partie du particulier pour parler de l'universel. Vous racontez dans votre ouvrage l'inceste que vous avez vécu dans votre famille et vous vous appuyez sur votre vécu pour mobiliser énormément de ressources. Donc vous parlez, vous recitez Bruno Clavier, psychanalyste, Paul-Claude Racamier, psychiatre français, et beaucoup d'autres pour illustrer ce que c'est l'inceste et son système. Et donc vous préférez partir du particulier pour parler de l'universel. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez pensé ?
Non. En fait, je ne pense pas que je parle de l'universel. J'ai un gros problème avec cette idée-là universelle.
Et c'est intéressant.
Précisément en matière d'inceste, je pense que il nous manque. Et je pense qu'on est à la préhistoire des recherches sur les questions sur l'inceste et que il nous manque énormément d'informations sur justement comment ça se passe selon les aires culturelles et géographiques. Et il n'empêche que la domination adulte est un trait largement répandu. Mais j'avais pas du tout en tête que je partais du particulier pour aller vers l'universel. Quoi.
Vous avez raconté votre histoire parce que...
Non, moi, ce que je fais, c'est quelque chose d'assez classique quand on est militante féministe. Ce que je revendique être sans problème, c'est je politise mon parcours, en fait. Donc, je pense même que... Parce que je ne me suis pas du tout appuyée que sur des... psychanalyste ou des psychiatres,
non, beaucoup,
de l'anthropologie, de la sociologie, l'histoire, voilà.
Il y a beaucoup de
je tiens à le préciser. Et justement, je le précise parce que souvent, une manière d'aborder l'inceste, ça va être ça, de psychologiser les choses et donc de pas politiser, c'est-à-dire voir la dimension systémique au sein d'une société donnée, bien évidemment. Et donc, moi, je crois que ce que j'ai cherché à faire, globalement, c'est de prendre les apports d'une certaine psychologie assez militante d'ailleurs qui rejette Freud en l'occurrence et la façon dont Freud a justifié l'inceste et aussi l'anthropologie que représente Dorothée Ducy et d'essayer de faire le pont entre les deux pour à partir de mon cas particulier effectivement voir comment les concepts qui ont été pensés par d'autres peuvent éclairer mon parcours et du coup éclairer d'autres parcours.
Et Marion, en publiant la thèse de Tal Peter Bromerx, quel public vous souhaitiez toucher ? Parce que c'est un travail qui est complexe. Il y a une rigueur universitaire qui parfois peut décourager un public plus large. Pourquoi ça vous a semblé essentiel de le diffuser quand même, malgré qu'il soit très complexe ?
D'abord, Tal, c'était un philosophe, mais c'était aussi un militant. Et on trouve encore certains formats en fait dans lesquels il a pu exprimer sa réflexion mais dans des formats pas académiques en fait et donc malheureusement on n'a pas en fait le livre qu'il aurait peut-être écrit s'il n'était pas mort suicidé et s'il avait adapté aussi cette thèse dans d'autres formats néanmoins on a trouvé d'une part qu'il y avait un manque et dans le paysage académique. En fait, c'est même au départ un peu un des points de départ de sa thèse, en fait, de voir à quel point, en philosophie politique, les rapports adultes-enfants ne sont pas pensés comme des rapports de pouvoir ou de domination. Donc, il y avait ce manque-là, et d'une certaine façon, c'est ce qui fait aussi qu'en dehors de l'objet livre un peu qu'on a publié grâce à Karima Issol et grâce au collectif dans son ensemble, il y a aussi sa thèse dans son intégralité qui est en ligne, en fait, et que tout le monde peut aller consulter. Et on espère, en fait, que ça contribue, en fait, à faire vivre sa pensée, mais à nourrir aussi simplement les réflexions, les travaux sur le sujet. Et puis, d'autre part, avec ce livre, on a voulu, c'est vrai, s'approcher un petit peu de l'objet militant, mais on n'allait pas écrire un livre qui n'existait pas. Et c'était en plus un peu éprouvant de toucher à ces mots à lui. Donc on s'est contenté d'essayer de le rendre plus accessible, par exemple en introduisant des résumés par moment, en insistant sur la structure en fait, entre les parties, comment un argument s'articule à un autre, plein de choses comme ça qui tendaient quand même à... rendre ce qui est quand même une thèse de philosophie plus accessible.
Oui, c'est vrai qu'il y a un vrai travail de rajout en marge du texte, de plein de petites indications qui sont très aidantes par ailleurs, parce que c'est vrai que sans vos indications, ça aurait été ardu peut-être de suivre la pensée. Est-ce que c'était une grosse partie du travail de faire ça ?
Oui, alors, c'est difficile de hiérarchiser un peu comment tout le travail s'est organisé, parce que voilà, chaque étape a quand même été beaucoup de travail collectif, où les uns une sont venus, repartis aussi, voilà, parce que tout le monde avait, c'est aussi les conditions matérielles de ce travail qui faisaient que, voilà, c'était pas notre, on avait aussi un métier par ailleurs, etc. Oui. Mais oui, ça a été une grande partie de déjà se mettre au clair sur ce qu'allait être le projet. Donc ce que je viens de résumer, tout ça, ça a été des questions. Mmh. Est-ce que c'est un livre qui peut devenir un livre vraiment, un outil militant ? Bon bah, pas vraiment, mais il y a quand même vraiment du contenu qui, pour le coup, peut remplir cette fonction-là. Qu'est-ce qu'on veut changer ? Par exemple, c'est un peu bête à raconter, mais au début, on n'arrivait pas à changer même une virgule. On se sentait obligé de mettre voilà, des crochets, des choses qui signalaient en fait, chaque intervention, mais aussi parce qu'on avait ce rapport quand même émotionnel en, fait, en faisant ce travail. Et après, non pas qu'on soit devenu extrêmement interventionniste par la suite, mais voilà, on se sentait moins obligé de signaler chaque toute petite modification. Et c'est vrai qu'on a fait des choix à la lumière de cette finalité-là qui était de rendre le travail accessible et de le restituer vraiment à la motivation politique militante qui habite Etal pendant son travail de thèse. Donc ce qui veut dire que par exemple on a coupé des passages qui à nouveau sont accessibles en ligne hein, mais en tout cas qui sont pas imprimés tels quels, qui sont très très techniques, très tournés histoire de la philosophie, par exemple sur des philosophes du XVIIe siècle, vraiment sur l'histoire du libéralisme, certains mouvements dont peut-être il y en a qui n'ont pas entendu parler, en tout cas moi c'était pas mon cas, comme le patriarcalisme et donc là on a remplacé ça par un petit paragraphe, un petit bout de phrase qui quand même résumait pourquoi à un moment Tal faisait ce passage-là, comment ça s'intégrait en fait, comment ça faisait avancer l'argument pour que ça puisse être suivi. Et après, il y a des choix qui sont restés un petit peu arbitraires. Par exemple, Piaget, ça reste un peu technique, etc. Mais en fait, souvent, les gens connaissent. C'était intéressant que ça aille voir du côté de la psychologie, etc. Donc voilà, à chaque fois, c'était des discussions collectives qui étaient à l'origine de ces choix-là.
Et vous étiez combien dans ce collectif qui a permis de...
Alors, c'est difficile d'arrêter ça à un chiffre vraiment strict, parce qu'il y a des gens... Alors, déjà,
c'est un groupe d'amis.
C'est un groupe d'amis, mais aussi d'amis d'amis. Il y a eu, par exemple, tout un groupe de relectoristes qui sont... y a déjà, en fait, les noms que vous voyez déjà en couverture au niveau des contributeuristes,
oui.
Ça a été un petit peu... le noyau dur augmenté aussi de d'autres personnes. Enfin, chaque personne s'est engagée à la mesure de sa capacité, de ses contraintes à ce moment-là. Mmh. Et puis derrière ça, il y a encore aussi tout un travail de relecture où pour le coup, on a mis beaucoup plus de monde encore à contribution. Et même, je dirais, il y avait de nos amis qui connaissaient Tal peut-être par notre entremise, mais peut-être pas forcément très personnellement, mais qui avaient de l'intérêt à voir ce travail publié, etc. Et puis après, il y a aussi évidemment le travail de Karima Essol à Blast, qui est extraordinaire, qui s'est ajouté à ça. Donc, et puis aussi, peut-être, c'est une dernière chose dont je peux parler, mais peut-être on y reviendra, c'est il y a eu d'autres façons de diffuser le travail de Tal, et donc on a aussi un petit peu bénéficié de ça d'une certaine mesure. C'est-à-dire que il y a eu par exemple d'autres podcasts, il y a eu des événements, il y a eu aussi un article qui est apparu dans la revue Mouvement. Mm-hmm. Ça, c'est toutes des choses aussi qui ont fait avancer ce travail collectif-là, et finalement, voilà, qui souvent figure en note de bas de page, et auquel il faut penser.
Cécile, vous, de votre côté, vous racontez que votre ouvrage, vous avez commencé à le penser lors de votre sortie d'inceste, j'insiste sur le terme sortie d'inceste, aux alentours de vos 38 ans. Pourquoi ce besoin d'écrire s'est imposé à vous, en fait, à 38 ans ?
Alors en fait, moi j'ai pas pensé le livre, j'ai d'abord fait des posts Instagram.
Ouais.
Et donc mon livre est organisé par chapitre, et en gros chaque chapitre correspond à peu près à un post. Certains chapitres étaient pas sur Instagram, mais globalement c'est ça. Mmh. Et le premier chapitre en fait c'est le post que j'ai fait en plaquant mon psy. Et donc je suis rentrée chez moi et j'étais vraiment énervée. Parce qu'il m'avait hurlé dessus, parce que j'avais osé dire que l'inceste était collectif en famille, en gros. Et donc, j'ai écrit ce qu'il n'avait pas voulu entendre. Je l'ai publié sur Instagram. Et ça a eu de l'écho très vite, alors que moi, j'avais un tout petit compte. Voilà, j'avais 500 abonnés. Et le truc a été massivement partagé. Et donc là, je me suis dit, ah, il y a de l'écho, j'ai encore des choses à dire. Et du coup, j'ai continué. Et de fil en aiguille, le compte a monté. Et le livre est... Enfin, l'idée du livre a germé au bout d'un moment, quoi. Mais je ne me suis pas dit, tiens, je vais faire un livre sur l'inceste, quoi.
Ouais. Et votre premier poste, il remontait à quand? C'est une question un peu précise.
Bah, j'ai des problèmes de mémoire.
Donc, c'est un peu compliqué. Voilà.
Mais quelques années, sur Insta, ouais. Okay. Je crois que c'est vers juin 2022, je crois.
D'ailleurs, en fin d'ouvrage, vous expliquez que vous ne dites pas que vous sortez de sortie d'amnésie traumatique. Vous ne sortez pas d'amnésie traumatique parce que le terme de sortie d'amnésie pour vous c'est pas représentatif de votre expérience. Pourquoi ?
Parce que par exemple j'ai toujours plein d'amnésie. J'ai des énormes trous noirs dans ma mémoire. Donc la sortie d'amnésie c'est pas on off déjà. Et puis qu'en fait dans le phénomène que j'ai vécu, c'est pas qu'une amnésie en fait, c'est du déni, c'est du clivage, c'est et ça n'est pas non plus quelque chose de très individuel dans le sens où en fait j'utilise en partie les travaux des psychiatres qui expliquent par exemple Muriel Salmona qui explique très très bien comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne l'amnésie traumatique, que c'est un phénomène de survie, etc. Mais je suis toujours un peu circonspecte avec le fait d'expliquer l'amnésie et le déni uniquement par ce biais neurologique, dans la mesure où, avec MeToo, en fait, plus on est nombreuses à parler, nombreuses, plus on sort collectivement d'amnésie. Donc, je pense que faut jamais oublier que, voilà, que les phénomènes individuels sont toujours, enfin, qu'on est des êtres collectifs, enfin, sociaux, et donc on peut pas se contenter. Enfin, c'est vraiment très limité et du coup, faux politiquement de dire que sortir d'inceste, ce serait sortir d'amnésie.
Ouais. Ça simplifie un peu le vrai processus, qui est en fait un ensemble de ressorts, qui est une forme de déni, une forme d'amnésie, une forme de ce que vous disiez tout à l'heure, c'était de, je ne sais plus le terme que vous avez utilisé, ça va revenir, mais donc il y a énormément de ressorts, et c'est beaucoup plus complexe que ça.
Oui. Ouais.
On parlait de naturalisation de la domination des adultes sur les enfants, et là je pense que notre première chroniqueuse, Chloé, va nous éclairer un peu sur ça, mais avec la lumière des mythes antiques. Salut Chloé.
Salut.
Ce soir on parle de l'enfance et plus précisément de pourquoi il faut arrêter de considérer les relations parents-enfants donc comme naturelles, la domination parents-enfants comme naturelle, et pour les politiser et étudier les dynamiques de domination qu'elles impliquent. Et Chloé, toi, ça t'a immédiatement fait penser à l'Oresti, que je ne connais pas.
Et oui, l'Oresti d'Eschyle, je te la recommande. C'est une,
merci.
C'est une trilogie majeure du théâtre grec, c'est la seule trilogie qui nous soit parvenue intacte jusqu'à nos jours. Donc, elle raconte les déchirements de la famille des Atrides, et c'est aussi un texte qui retrace la naissance mythologique de la justice athénienne.
Ok, donc topo pour ceux qui n'ont pas suivi au fond de la classe.
Alors, dans la première pièce, Clytemnestre tue son mari Agamemnon pour venger leur fille Iphigénie, sacrifiée par son père avant la guerre de Troie. Donc, dans la deuxième, leur fils Oreste venge Agamemnon en tuant sa mère. Je ne sais pas si vous avez suivi. Et dans la troisième, Oreste est poursuivi par les Furies, donc des déesses terrifiantes qui sont chargées de punir les crimes de sang. Donc les Furies, c'est des divinités anciennes qui sont antérieures aux dieux de l'Olympe et qui sont représentées dans la pièce comme des bêtes hurlantes qui incarnent une justice archaïque, celle du talion, œil pour œil, dent pour dent. Apollon, qui a incité Oreste à tuer sa mère, lui conseille de se réfugier à Athènes, où la déesse Athéna instaure pour résoudre son cas le premier procès de l'histoire. Les Furies plaident leur cause, Oreste aussi, avec le soutien d'Apollon, qui propose un argument radical. Donc je le cite, « Ce n'est pas la mère qui donne la vie à son enfant, elle n'est que la nourrice d'un germe reçu du père, la vie vient du mal qui l'assaillit. » Donc, selon le dieu, la mère, c'est une sorte de terreau passif. Seul le père est un géniteur. Et d'ailleurs, Apollon peut le prouver. Donc, il se tourne vers Athéna, qui est le parfait exemple, puisqu'elle n'est pas née d'une femme, mais de la tête de Zeus. Donc, sa conclusion, c'est « Oreste devait venger son père, mais il ne devait rien à sa mère. »
Et cet argument, ça convainc les juges?
Alors, le jury est divisé et c'est Athéna qui tranche et elle tranche en faveur d'Oreste. Sa position est claire, comme elle le dit, « Je suis du côté du père de tout mon cœur ». Donc, le premier procès de l'histoire s'achève sur une victoire symbolique, celle du père sur la mère. Ce que l'Orestie met en scène, c'est la transition d'une justice privée, vengeresse et archaïque vers une justice publique, institutionnelle et rationnelle. Mais cette justice n'est pas neutre. Dès sa naissance, elle est pensée pour protéger l'ordre patriarcal. C'est un ordre plus structuré, mais qui repose sur la prééminence du père et l'exclusion des femmes. Et c'est pas un hasard si l'argument d'Apollon se retrouve dans la philosophie d'Aristote, qui décrira plus tard la mère comme une matière passive face au principe actif du sperme masculin.
Super.
Donc c'est un mythe pseudo-naturel qui va légitimer pendant des siècles l'idée que les femmes ne sont que des matrices et qu'elles doivent rester en dehors des affaires de la cité.
Mais du coup, les furies, elles disparaissent.
Alors non, les furies acceptent la transformation de la justice et elles deviennent des gardiennes bienveillantes de l'ordre nouveau. On pourrait dire qu'elles sont apaisées ou bien qu'elles sont domestiquées. L'ordre patriarcal ne les détruit pas, il les intègre, il leur donne une place, mais une place subordonnée. Les dieux de l'Olympe ont soumis les forces archaïques, les réformes à temps pour servir son propre cadre, et ce cadre, dès le début, il est du côté du père.
Et aujourd'hui, ça nous dit quoi ?
Alors ça nous dit que les structures de pouvoir se construisent sur des récits, sur des mythes qui rendent naturels aux yeux de ceux qui en profitent comme de ceux qui les subissent. Ce que raconte l'Orestie, c'est comment un système d'oppression peut s'instituer en passant pour une avancée. On arrête la vengeance privée, on institue un tribunal, mais ce tribunal est déjà biaisé en faveur, comme le dirait Rose Lamy, des bons pères de famille. Aujourd'hui, beaucoup d'institutions nous semblent objectives, rationnelles, légitimes, mais si on creusait leurs fondations, combien de furies assoupies révélerait-elle ?
Merci beaucoup Chloé. Des furies, il y en a beaucoup à trouver encore, j'imagine.
On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
On nous entend. Maintenant, on nous entend. Vous écoutez toujours Donc on se lève et on se casse sur Radio Campus Paris, sur le site en direct et sur le 93.9 FM. Nous sommes toujours avec Marion Pollaert et Cécile C pour parler de l'ouvrage de Tal Peter Bro Marx, La domination oubliée, politiser les rapports adultes-enfants, et de Cécile C, ce que Cécile C, journal de sortie d'inceste. Marion, comme je le disais en introduction, cette thèse elle a été publiée à titre posthume à la suite du décès de Tal. Et c'est un travail qui est très particulier, j'imagine, de diffuser donc cette thèse inachevée. Tu le disais tout à l'heure. Quelles difficultés vous avez rencontrées, plus particulièrement, je pousse un peu encore sur la manière dont vous l'avez écrit à plusieurs mains. Vous étiez nombreux, ça a demandé un travail de coordination qui a dû être phénoménal. Et de retrouver ne serait-ce que les textes. Je précise pour les gens qui ne l'ont pas lu. Par exemple, la troisième partie, ça n'est qu'un plan détaillé à la base que vous avez développé. Ouais, non C'est plus compliqué que ça, peut-être
Oui, en fait, on l'a. Il était très semi-rédigé, on l'a plus mis en forme que développé, en fait. On a ajouté assez peu de choses, mais oui, par exemple pour l'histoire, ce plan de troisième partie, donc qui est la partie qui a pas été écrite et qui en plus aurait été sans doute la partie qui aurait le plus directement ouvert en fait et sur des modes d'action et sur des questions militantes plus directement. On a retrouvé ce papier dans la pochette de son ordinateur. Donc voilà, il y a plein de et puis. Par exemple, un peu dans le même genre, on travaillait sur une version du document et en fait on l'a confronté à d'autres versions, notamment une version qui avait été envoyée à l'un de ses directeurs de thèse. Voilà, il y a tout ce travail-là qui déjà est une première difficulté. Après, il y a le travail de modification du texte qui est le texte imprimé, même si ça n'a pas modifié la thèse en elle-même, et sur lequel voilà, je me suis déjà un peu étendue. Ensuite, je dirais que ça a été aussi peut-être un peu compliqué la façon dont ça a été reçu, la démarche même en fait, de diffuser la pensée d'un ami qui était décédé. C'est-à-dire que autant on a reçu un soutien attentif et délicat de la part de plein de gens, et j'ai pas le temps de... remercier tout le monde, mais je parlais un peu de la revue Mouvement, donc Vanina, nos éditorices Sol et Karima, les Chèdes, enfin vraiment beaucoup de monde qui s'est montré très à l'écoute, et aussi je pense dans une forme de, voilà, d'attention à la pensée Tal, mais il y a eu aussi certains moments qui ont évidemment été parmi les moments difficiles de son entreprise, où on a eu aussi l'impression d'être un peu un groupe d'illuminés, ou qu'en tout cas, ça entachait un petit peu, d'une certaine façon, le sérieux de cette entreprise, de se retrouver dans cette position, en fait, et d'endeuiller, et de passeurs et de passeuses, en fait. Donc voilà, ça, c'est encore une difficulté qui s'est ajoutée. Et après, oui, le fait de se coordonner, c'est plein de choses dont on peut se douter un petit peu. On s'est organisé des résidences d'écriture qui permettaient quand même de, à un moment, avancer, faire des points un peu, apporter de la cohérence à tout plein de choses qui se passaient avec des réus qui pendouillaient par moment, qui étaient, voilà, et puis parfois un peu dépeuplés aussi en fonction du moment de l'année, etc. Donc oui, ça a été un travail de longue haleine, clairement.
Et Cécile, vous avez écrit un ouvrage donc sur votre expérience personnelle. Quand j'écris des projets sur mon expérience personnelle, j'ai tendance à me heurter sur des questions de violence, par exemple. J'ai tendance à me heurter à des murs parce que le travail de la mémoire, le travail de la prise de conscience, le travail de la sortie du déni, etc., il est compliqué, il y a plein de résistances qu'il faut dépasser. Est-ce que ça, pour vous, ça a été dur d'écrire en ce sens-là? Je sais que c'est d'abord passé sur Instagram, donc c'est peut-être différent, vous l'avez fait à votre rythme, peut-être. Mais est-ce que vous avez rencontré ce genre de difficultés qui sont liés à la fois à la sortie d'un déni, à la fois à je sais pas, un réassemblement de tous vos souvenirs? Est-ce que ça a été de cet ordre-là ou pas tant?
Alors, pas trop, mais ça s'explique. Je crois que c'est intéressant comment ça s'explique. C'est-à-dire, ma prise de conscience de l'inceste. En fait, ma prise de conscience du fait que j'ai grandi dans une famille violente. Du coup, elle a été accompagnée par... ça faisait quand même un certain temps, une dizaine d'années que je travaillais sur moi. Et ça a débloqué plein de choses d'un coup. Donc ma vie a radicalement changé, mais vraiment, j'ai acquis un bateau. mais véridique, en fait, en soi, c'était déjà enfreindre une loi non écrite de ma famille, alors que j'ai grandi au bord de la mer. Hein. Mais... voilà, je me suis remise au dessin alors que je m'étais empêchée de dessiner après avoir fait les Beaux-Arts de Paris parce que je suis sortie photographe. Voilà, et donc quand j'ai commencé à faire ce premier poste, j'étais déjà un petit peu, mais ça s'est accéléré, dans une démarche où dans une démarche de sortir de l'auto-sabotage. Et donc, par exemple, le crayon que j'utilise, qui est un crayon unique, 4 couleurs, je l'ai choisi précisément parce que il était sur mon bureau quand je suis rentrée de chez mon psy, et je me suis dit, ah putain, je vais prendre ce truc-là parce que du coup, je vais pas m'arrêter pour me demander quelle couleur je dois faire et me demander si c'est joli, etc. Donc j'avais une sorte de vigilance pour pouvoir m'autoriser à sauter quoi à l'eau. Et le fait de publier sur Instagram, c'était la même démarche. C'était le fait de tout à coup arrêter d'être jugeante envers mon travail immédiatement et d'oser publier des trucs que je trouvais pertinemment. Enfin, mes premiers dessins, d'ailleurs, je les ai refaits, mais je les trouvais pas beaux, en fait, clairement. Et j'avais cette peur d'oser dire des trucs perso qui se disent pas. Mais je sais pas, c'est comme si j'avais fait sauter un bouchon et à partir de là, je me suis dit, rien ne m'arrêtera, quoi. Donc, mais du coup, le truc, c'est que souvent, enfin, par exemple, moi, je ne me pose aucune question en termes de, ou très peu, en termes de ce que j'ai le droit ou pas de représenter de la violence. Tous les trigger warnings, etc., j'en fais aucun. Jamais. Et en fait, il y a une partie, enfin, j'ai réfléchi après coup parce que du coup, on m'en a parlé de ça. Et au début, je réfléchissais pas. Il y a ce truc de, bah, je suis vraiment très dissociée et du coup, j'ai du mal à me rendre compte de ce qui est violent ou pas. Et très souvent je tombe à côté de la plaque. Moi, il y a des trucs que je peux trouver hyper violents et en fait c'est pas ça du tout pour les autres. Et après il y a un autre truc, c'est que vraiment moi je suis pas d'accord avec ce truc qu'il faut pas prononcer le nom de Voldemort, quoi. Donc je pense que faut dire viol, faut dire inceste, voilà, c'est violent, ça fait violence, voilà, c'est je pense qu'on ne peut pas attraper cette question de l'inceste sans l'attraper avec la violence qui vient avec. Je fais violence à ma famille en racontant l'histoire. Voilà. Et j'avais le choix entre raconter ou pas raconter. Donc à partir d'un moment, je le fais, c'est violent. Et je ne vais pas me cacher en me disant non, mais je l'ai fait d'une manière qui n'est pas violente.
Est-ce que ce refus de trigger warning, c'est je sais pas si c'est un vrai refus, mais en tout cas, est-ce que ça vous permet de mieux vous lancer, parce que sinon il y a des précautions à prendre et ça devient tout compliqué. Enfin, il y a tout un tas de pensées qui s'accompagnent. Ou est-ce que c'est juste que quand vous l'avez fait, vous vous êtes dit,
même pas un refus, parce que au départ je l'ai pas fait en me disant je refuse de et je le fais pas. C'est plus une façon de. Je sais pas trop, en fait. C'est pas quelque chose qui est. Alors, en fait, je comprends qu'on réclame des trigger warnings et je vois l'utilité. Ça me parle pas trop. Mm-hmm. Et du coup, jusqu'à présent, j'ai pu avancer sans me poser trop cette question-là. Et quand j'y réfléchis, je trouve ça pas très utile. Mais on me l'a pas violemment reproché non plus. Voilà, donc je sais pas trop. Et c'est vrai que je trouve que c'est pas un sujet de réflexion que je trouve hyper. Enfin, il y a tellement de trucs à penser que.
Pas la priorité, quoi.
Pour moi, c'est pas la priorité, mais pour d'autres, ça l'est peut-être, et peut-être que j'ai tort. Voilà.
Bon, on dit pas ça non plus, mais c'était intéressant de se poser la question parce que c'est quelque chose, une pratique qui est hyper répandue maintenant dans les textes, dans les productions générales sur le sujet. Donc. On va faire une petite pause musicale parce que le temps passe avec Lana Lubani, une chanteuse londonienne aux origines palestiniennes et américaines, et son titre qui a connu le succès intitulé Yaffa.
شجر الزيتون مربوط في الأرض
والشمس تحميه
الشجر المحروم بيدل
الحب سقيه
والنجم والقمر والمي والبحر
ما بنسى من وين أنا جاي
عصفور طار بالهوى السيف وهوى يافا والنجم والقمر والمي والبحر ما بنسى من وين أنا جاي ما بنسى من وين أنا جاي ما بنسى من وين أنا
جاي كانت الحياة غير شكل بيتنا هو إشي بيت كبير يعني يعبي الناس مرة بالشهر كنا نعمل استقبال يوم سبت يجوا كل أصحابنا وينتهي كل عيد عناية تغني ومن ورد الرص كنا عايشين عيشة أبها ما هو يقول لي الناصر يجينا على الناصر على شهر زمان عبين ما تروح الحالي وضلنا على طول
They say home is where the heart is But what if you don't have it? Would it be where I'm most honest? I say home is where my heart is My penmanship's my anthem More committing than a promise Got my family by my side for life Every day I'm reaching a new height Freedom in my thoughts, they raise me right They can't ever stop my inner child
الدار شو صار فيها؟ راحت تحدوها على البحر صارت طويلة لا لا يعني أنا عشت حياتي كلها يعني من أنا وصغيرة إلى كبرت
On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
Marion, dans les études sur la domination, il y a les gender studies, les études de genre, les racial studies. Il y a aussi le prisme de la classe sociale. C'est ce que Tal explique dans son ouvrage. Il explique que pour comprendre les rapports adultes-enfants de domination des adultes sur les enfants, les analogies aux rapports de genre et les théories féministes sont indispensables pour comprendre cette construction politique de la domination. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ?
Alors, indispensable, je sais pas, mais en tout cas, utile et pas suffisante, en tout cas, mais je vais développer un peu. Oui, en fait, ça correspond au deuxième chapitre du livre publié, donc de sa thèse, qui teste un peu, en fait, la qualification des rapports adultes-enfants comme des rapports sociaux de domination. Et c'est dans ce but-là que Tal utilise l'analogie, notamment, pour le plus largement, avec les rapports de genre. C'est un procédé en fait qui l'invente pas du tout, hein, mais qui par ailleurs a été mis beaucoup en œuvre par exemple les féministes matérialistes françaises dans les années 70 entre genre et classe ou genre et race. Et donc Tal fait un peu cette hypothèse et c'est de voir si ça peut nous aider d'utiliser la même méthode que ces féministes en fait pour penser les rapports d'âge. C'est effectivement utile pour dénaturaliser, mais c'est pas suffisant. Et là, notamment, c'est le moment où il fait jouer l'intersection contre l'analogie. Donc l'analogie, c'est l'identité de rapport et pas l'identité des termes, en fait. Donc ça a pour conséquence qu'on se représente les différents groupes sociaux comme distincts et comme nettement séparés. Et donc ça, de son point de vue, c'est ce que avance ce deuxième chapitre, ça peut alimenter une dynamique concurrentielle entre des groupes opprimés. Et c'est par exemple ce qu'on voit entre le groupe social des femmes et le groupe social des enfants. Et donc là, par exemple, il s'appuie sur l'hypothèse de la respectabilité qui montre comment les proto-féministes ont mis à distance aussi le groupe des enfants, comme justement pour en différencier les femmes, pour justement les requalifier comme sujets politiques à part entière, en fait. Donc l'analogie, elle a des défauts. Elle aurait aussi celui, par exemple, de dicter ce qui est prioritaire, quel combat par différence est secondaire. Et donc, de ce point de vue-là, Tal parle de lutte territoriale, en fait. Donc ça a pu aussi être une façon de reléguer la domination adulte à un plan second qui ne serait pas prioritaire. Donc il se sert de cet outil de façon assez massive. Ça lui permet, en fait, après avoir dénaturalisé les rapports de domination, ce rapport de pouvoir entre adultes et enfants, en historicisant, en faisant une étude historique, donc je parlais par exemple du libéralisme, etc. Ensuite, l'analogie, elle lui sert vraiment à essayer de repolitiser, mais Tal le fait aussi en soulignant les défauts, les manques de cet outil-là. Et il fait jouer aussi l'intersection pour compléter ça.
Oui, à chaque fois qu'il utilise quelque chose, un outil de recherche, d'historisation, d'analogie, à chaque fois, il y a une critique quand même constante de ces méthodes-là. Ça, c'est une question pour vous deux, une question plutôt générale, une question qu'on se pose beaucoup aujourd'hui, de nos jours en tout cas. Aujourd'hui, l'inceste, c'est quand même encore beaucoup abordé comme un crime individuel, souvent rarement comme une question systémique, malgré les mobilisations, malgré le travail qui est fait en recherche et ailleurs. En quoi la notion de culture de l'inceste, qui a été notamment utilisée par Juliette Drouard, mais pas que, permet d'en saisir les mécanismes collectifs aujourd'hui ?
Alors, la culture de l'inceste, ça a été justement dans ce collectif, Tal a participé, et il y a un de ses articles dans cet ouvrage-là.
Ouais.
C'est pas particulièrement au centre de sa thèse, mais on peut dire que l'une des pièces principales que Tal apporte pour penser cette culture de l'inceste, c'est-à-dire donc, finalement, une stratégie politique qui est celle de l'amnésie collective, c'est de penser le rapport d'inversion temporelle, en fait. Donc, je parlais de l'analogie tout à l'heure. L'analogie, elle permet aussi d'isoler ce qui est spécifique au rapport d'âge, au rapport entre adultes et enfants, par différence avec les rapports de genre. Et celui de l'inversion temporelle, c'est justement ce caractère qui met à part les rapports d'âge, puisque deux enfants ont rejoint le groupe des adultes. Et donc, comme outil politique, ce que Tal esquisse, c'est une fidélité politique qu'il envisage à l'égard de nos enfances. Et finalement, donc, une réponse à l'oubli généralisé des adultes que nous sommes vis-à-vis de ces enfances-là. Et cet oubli-là, il structure les rapports adultes-enfants. Donc là, on voit que c'est un point d'articulation entre sa contribution au livre collectif La culture de l'inceste et son travail plus large sur les rapports adultes-enfants. Donc ce qu'il dit, c'est que la force des souvenirs traumatiques, elle contrarie l'activité d'oubli de nos enfances qui justement est systémique et qui structure cette culture de l'inceste. Donc, et là-dessus, Cécile Sey le dit hyper bien, la culture de l'inceste, c'est l'organisation systémique de nos sociétés pour taire cette remémoration-là. Donc c'est à ce point-là que je pense qu'on peut faire le lien.
Je pense qu'elle approuve. Tu as quelque chose à rajouter ou c'est...
C'est bien résumé. Non, tout ce que je peux dire, c'est que mon livre, en fait, il démarre, mon livre, mon travail, parce que j'ai raconté ce premier poste que j'ai fait, c'était en juin. Il y a eu l'été qui a passé où j'ai rien publié et à la rentrée je me suis dit ça va saouler tout le monde de reparler d'inceste, donc je m'étais dit je vais parler de bateau quoi. Et sort le livre La culture de l'inceste, je cours l'acheter et là je me suis dit ah mais j'ai trop de trucs à dire. Et donc en fait ce livre m'a permis vraiment, moi qui ai fait des études aux Beaux-Arts de Paris, voilà, il m'a permis de comprendre à quel point cet outil conceptuel qui est la culture de l'inceste nous permettait effectivement de penser les mécanismes de domination, de silenciation au sein des familles, le fait de aussi comment la famille est absolument au centre de tout et magnifiée en permanence, etc. Et donc je trouve que il nous invite en fait à déconstruire tellement de choses que je ne cesse de dire, si vous avez des choses à dire sur le sujet, mais écrivez, peignez, dites-le, parce qu'en fait ça doit être une conversation collective et on a énormément à déconstruire.
Donc, tout ça, j'ai bugué sur le cinéma. Donc oui, tout le monde doit participer à cette discussion, que ce soit par l'écrit, par le dessin, par le podcast, par toutes ces manières. Si vous voulez faire des podcasts sur l'inceste, allez-y, enfin, n'attendez rien. Dans la dernière partie de son ouvrage, Tal... Je précise donc dans cette dernière partie, c'est un plan très détaillé que vous avez développé, explicité en tout cas. Il aborde des stratégies émancipatrices pensées pour les enfants dans les années 70-80 du concept de domination des adultes sur les enfants. En fait, je bug sur la terminologie. Peut-être, je parle donc des stratégies émancipatrices freudo-marxiennes. Oui, c'est ça. Cette stratégie qui développe un outil et qui passe par la sexualité des enfants, notamment avec des adultes. Est-ce que tu peux nous expliquer que je dise pas de bêtises et que je dise pas de bêtises. Point barre.
Merci pour la question. Justement, ça permet de clarifier ce point important parce que justement, on a ce plan qui est donc vraiment pas du tout. Enfin, c'est vraiment le brouillon avant de ensuite entrer dans le détail des arguments qu'il aurait égrenés. Il y a eu la façon dont je le dirais, c'est pour ça que tu m'as vu froncer les sourcils quand au mot d'émancipatrice, c'est que ça a été, si on veut, il y a eu un autre essai avant Tal et avant ce qui se passe aujourd'hui de penser en fait la domination adulte, mais de le penser à la lumière de la libération sexuelle. Et donc effectivement, il y avait cette idée de que la sexualité libre des enfants, si on pense l'enfant en fait vraiment comme autonome, et si on veut le libérer, bah, d'une certaine façon, on peut prolonger ça jusqu'à lui accorder quelque chose comme un consentement, des désirs, etc. Évidemment, toutes ces tentatives-là, Tal les mentionne pour les critiquer.
Bien sûr.
Et justement, en fait, ce qu'on voit, c'est que son travail, il se situe vraiment sur un double plan. D'une part, donc dénaturaliser une vulnérabilité dès le moment où, en fait, elle légitime des institutions qui ne protègent pas les enfants, en fait. Mais c'est pas une façon de nier que les enfants n'ont pas des besoins spécifiques, et d'autre part que il y a des façons de le libérer qui peuvent être des projections en fait de désirs d'adultes et une façon incomplète. C'est là que Tal parle de repolitisation tronquée pour parler de ces mouvements qu'on a pu appeler des mouvements pro-pédophiles en fait des années 70-80. Et donc ça, c'est le deuxième front sur lequel même si oui, Tal tente de penser une remise en cause en fait des institutions qui fige les enfants dans une identité vulnérable. Il ne s'agit pas pour autant de rejoindre le camp pro-pédophile sur ces questions-là.
Non, bien sûr que non. Et donc, il y a des idées qui sont hyper surprenantes de lire. C'est que, par exemple, il y a toute une pensée de symétrisation dans le rapport sexuel entre adultes et enfants, notamment Foucault qui reprend cette idée, je crois. Foucault reprend cette idée. J'étais assez surprise de le lire dans l'ouvrage que... Et je crois que c'est une illustration parfaite des stratégies émancipatrices tronquées. C'est qu'il reprend cette idée extrêmement surprenante que pour lui, les enfants sont capables de symétriser les rapports sexuels avec des adultes et que à partir du moment où il y a un consentement qui est transparent, etc., tout est OK et il n'y a pas de problème. Alors ça, j'avoue que... Donc évidemment, il le critique, hein, telle cette idée-là, c'est hyper important parce que, d'une part, moi, j'avais pas connaissance de cette pensée de Foucault, et bon, j'ai pas lu énormément Foucault, mais voilà, un peu quand même. Est-ce que c'est une expression de déni, une expression du déni collectif ?
Alors, c'est une bonne question. À nouveau, c'est pas... extrêmement central dans son travail, mais c'est mentionné dans cette troisième partie-là. Cette mention de Foucault, en fait, on la trouve dans l'histoire de la sexualité, et l'histoire de la sexualité, ça reprend une bonne partie de ce que Foucault développe, en fait, dans ses cours au Collège de France. C'est la même période, en fait, que, justement, ces mouvements dits pro-pédophiles, et il y a des travaux qui sont pas les travaux TAL qui sont encore... Enfin, voilà, on pourrait rentrer dans le détail. C'est rapporté, par exemple, dans un article que TAL avait coécrit avec Pierre Niedergang, qui est paru dans la revue GLAAD. Foucault a été, c'est attesté, très influencé par exemple Duvers, par Scherer, et donc on a une mention ultra transparente, par exemple dans l'histoire de la sexualité. Mais de façon générale, il y a eu aussi une critique plus large où, en fait, le modèle du pouvoir tel que Foucault le développe, ça a pu servir aussi, et pas forcément d'ailleurs que Foucault, mais aussi l'héritage de Foucault, à promouvoir une sexualité subversive. Et c'est un problème, en fait, de savoir où la subversion fait place quand même à la protection dans le cas des enfants, et où est-ce qu'on met cette limite-là, quoi. Donc oui, effectivement, c'est peut-être pas une partie massive de la pensée de Foucault, mais c'est un des possibles, en fait, de sa philosophie, et c'est effectivement le cas dans certains... Petit passage, on va dire.
Je vais faire une petite pause dans cette discussion pour accueillir Alice. Salut Alice.
Salut Pauline.
Donc tu vas nous parler, toi ta spécialité c'est de nous parler des femmes qui ont gagné le prix Nobel de littérature. Et donc tu vas nous parler de la quatrième femme qui a gagné le prix Nobel de littérature. C'était en quelle année ?
Alors, pour cette chronique, on va remonter le temps en 1938, juste avant donc la Seconde Guerre mondiale. C'est la quatrième femme à l'obtenir, et on rappelle, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi les chroniques, que les prix Nobel existent depuis 1901.
Effectivement, ça fait pas beaucoup. Et donc, quelle femme l'a eu en 38 ?
C'est Pearl Buck, une autrice américaine. Alors elle est née en 1882. Elle a un parcours en fait pas très commun, puisque à l'âge de 3 mois, elle déménage en Chine parce que ses parents s'y installent en tant que missionnaire.
Et donc du coup, elle a grandi en Chine ?
Oui, elle a été élevée en fait au contact de la culture chinoise et elle est parfaitement bilingue. Elle revient seulement aux États-Unis pour ses études universitaires, puis elle retourne en Chine en 1927 où elle se marie avec un ingénieur américain. Bon, elle finit par divorcer, elle retourne aux États-Unis et en 1930, elle commence à publier ses romans qui sont en fait inspirés de son expérience chinoise. Et les premières publications, elle rencontre un énorme succès. C'est d'ailleurs la première femme à obtenir le prix Pulitzer en 1932. Elle est ensuite donc lauréate du prix Nobel de littérature en 1938, je cite, pour ses descriptions riches et épiques de la vie des paysans en Chine et pour ses récits biographiques. Pearl Buck, elle a un style qui est simple et concis. Elle a aussi une très grande compréhension des valeurs humaines et des différences culturelles. Elle a beaucoup notamment contribué à la compréhension de l'Orient par un public occidental, donc dans les années 30. Elle laisse derrière elle une œuvre qui est composée de pas moins de 85 romans.
Ah, donc elle a été hyper productive, c'était une femme engagée aussi ?
Oui, bah toute sa vie, en fait, elle a combattu pour les droits des minorités et les droits des femmes. Dans les années 1930, elle s'engage dans le mouvement des droits civiques. En 1942, elle fonde l'association Est-Ouest pour les échanges culturels et la compréhension de l'Asie et de l'Occident. Elle était aussi choquée par le fait que les institutions chargées de l'adoption considèrent que les enfants métis et asiatiques sont inadoptables. Du coup, elle fonde Welcome House, la première institution internationale interraciale pour l'adoption. Elle adopte elle-même 7 enfants et lève des millions de dollars pour un grand nombre de causes.
Donc son parcours est extrêmement riche et engagé. Et t'as lu lequel de ses livres pour cette chronique ?
Pour la chronique, j'ai lu son premier roman, Vent d'Est, Vent d'Ouest. C'est l'histoire d'une jeune fille, Kuei-lan, issue d'une famille riche chinoise dans les années 20. Elle fait un mariage arrangé avec un homme qui a étudié la médecine occidentale et qui, du coup, se détourne des traditions. Poussée par ce vent venu de l'Occident, Kuei-lan se retrouve déracinée de ses traditions millénaires, de ses attentes sur le mariage et de son rôle de femme dans une société chinoise qui est en proie à de grands bouleversements. Vraiment, j'ai adoré ce court roman. En fait, il est écrit du point de vue de l'héroïne et il décrit finement ses réactions innocentes sur l'Occident, sur aussi les valeurs traditionnelles qui l'ont forgée et les relations familiales qui sont en fait au cœur du conflit de génération qui va secouer les personnages. Avec ce livre, on comprend vraiment pourquoi Pearl Buck est considérée comme une véritable autrice chinoise en Chine.
Eh ben merci beaucoup Alice, c'est encore un livre dans ma pile à lire interminable. Merci pour la reco.
On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
Il nous reste que quelques minutes je crois, oui, il nous reste 8 minutes. Et j'aimerais vraiment beaucoup parler de terminer cette pensée sur Foucault. Sur cette approche de Foucault, sur le consentement tronqué, etc. Dans ce système qu'on appelle aujourd'hui la culture de l'inceste, qui a été théorisée donc par Juliette Droit, mais pas seulement, un des ressorts les plus forts, et vous en parlez aussi, Cécile C., dans votre ouvrage, pour continuer à alimenter cette culture de l'inceste, c'est le déni. Pas seulement, il y en a d'autres bien sûr, mais donc est-ce que le fait de naturaliser la fragilité de l'enfant et de naturaliser le fait que ce soit la famille qui soit le plus apte à prendre soin des enfants, c'est une manifestation collective de déni ? Je vous ai déjà posé la question, mais j'essaie de creuser un peu plus la réflexion sous une autre forme.
Je pense que ça dépend ce qu'on entend par déni. Ce que Cécile disait de très intéressant sur la psychologisation en fait, des rapports de pouvoir, par exemple, je rejoins complètement l'idée que c'est une fausse piste.
ouais, j'ai un truc à dire sur le sujet parce que en fait, je viens de faire un post aujourd'hui là-dessus.
Oui, tout à fait.
Ce qui se passe à Bétaram, en fait, c'est une illustration absolument parfaite de ça.
C'est ce que j'allais terminer.
C'est-à-dire que, en l'occurrence, tout le monde se demande mais pourquoi Bérou a mis ses enfants là-bas. Mmh. Et en fait, la raison pour laquelle Bérou a mis ses enfants là-bas, c'est que c'est quelqu'un qui considère que la violence éduque les enfants. Et donc, à partir de là, mettre ses enfants dans un endroit où il y a des violences de manière répétée, connue, etc., n'est pas un problème. Et comme tous les... D'ailleurs, le porte-parole des victimes de Bétaram dit « Tous les parents savaient et tous les parents mettaient leurs enfants. » Et donc, en fait, cette culture de l'inceste, elle amène à se poser des questions dont la réponse est dans la question « Pourquoi Bérou met ses enfants à Bétaram ?» Parce qu'en fait, c'est un père violent qui revendique, puisqu'il a giflé un gamin en 2002 en disant bah, « j'ai agi en père de famille », il n'a pas dit « bon père de famille », c'était l'idée. Et donc, sa politique générale, de toute façon, là, ils sont en train de faire passer une loi sur la délinquance juvénile, qui est une loi atrocissime vis-à-vis des enfants, qui est exactement ce que dénonce Étale dans le rapport aux enfants. Mmh. Et en fait, il y a des liens à faire entre tout ça, et donc cette culture de l'inceste, elle nous empêche de faire les liens. Et donc moi, je prends ce concept qui est chez... Je vais chercher chez Racamier, en l'occurrence, qui est un psychanalyste que je cite, parce qu'il a pensé l'incestuel et il a un concept hyper intéressant qu'il appelle l'exhibé caché, c'est-à-dire, c'est, en gros, on pourrait résumer avec l'image de l'éléphant au milieu de la pièce. C'est là, mais en fait, on a interdiction de le nommer. Et donc, en fait, si on politise ce concept-là qui n'est pas à la base politique, qui vient des familles, enfin, qui vient de penser l'inceste au sein des familles, ça nous permet de comprendre comment fonctionne toute la société. Et même au-delà de l'inceste, moi, je crois, ça permet de penser comment fonctionnent toutes les violences de domination. Enfin, moi, j'appelle ça les violences de domination. Par exemple, le racisme, c'est massif. Et on fait tout le temps comme si c'était pas là. Ça fonctionne exactement. J'avais entendu Mam Fatou Nyang, je crois, en parler sur le...
la silenciation des violences subies par les esclaves. Et même dans la transmission historique et culturelle de ce fait historique, comment tout est toujours silencié. Alors qu'on sait que c'est là, on sait que c'est grave, on sait qu'il y a eu de la déportation, on sait qu'il y a eu des millions de morts, mais en fait, on fait comme si non. Voilà. Et pour moi, ça... Je sais pas si je vais plus loin ou pas, mais en tout cas, moi, je pense que ça, c'est de la culture de l'inceste.
Voilà. Marion, est-ce que tu veux réagir ou...
Ouais, je pense que ça, enfin, ce que tu viens de décrire, ça rejoint complètement la dépolitisation, en fait. C'est vraiment, je pense que si Denis, à nouveau, on voit par exemple dans la question de Bayrou, j'ai simplement le coup de son oubli, de sa gaffe ou d'une espèce de déni dont il serait lui-même prisonnier, on se rend moins sensible en fait aux structures massives qui sont et à la fois là et à la fois pas qualifiables et qualifiées comme telles ou pas de façon entendue. Et la réponse que Tal esquisse, c'est celle de repolitiser ça en fait, de dénaturaliser, c'est-à-dire de défaire en fait les bases qui rendent ce déni naturel, évident, absolument inquestionnable, et par-dessus ça, d'essayer de se poser la question qu'est-ce qu'on en fait ? Et à partir de là, je pense qu'on élargit, on peut appeler ça déni en un sens, mais on élargit aussi la perspective à un niveau collectif.
Il reste pas beaucoup de temps. Est-ce que pour terminer cette émission, vous avez des références à nous conseiller, à conseiller aux auditoristes pour un peu creuser le sujet à la fois de la culture de l'inceste, à la fois de la domination des adultes sur les enfants. Peut-être que vous avez des choses, peut-être pas. Peut-être que c'est
je vais dire les classiques, quoi. Mais il y a Dorothée Ducy à lire, ça s'appelle Le berceau des dominations. Il y a le livre La culture de l'inceste qui est quand même assez facile à lire parce que c'est des articles assez courts. Voilà.
Donc un ouvrage de Juliette Droit et Iris Bray.
Après, on peut chercher Tal Peter Bromers en ligne sur Google et on va tomber sur plein d'interventions absolument fabuleuses.
Oui. Sur YouTube et sur Carn.
Et ça, vraiment, je veux dire, des trucs où il nous fait penser, mais de manière incroyable.
Ouais.
Et de manière aussi très accessible, je trouve.
Et peut-être j'ajouterais aussi, parce qu'on en a moins parlé, mais du point de vue littéraire, Dorothy Allison, qui était une autrice que Tal aimait beaucoup et je pense qui est hyper précieuse et politiquement. Et voilà, ça change aussi un peu des références très, très académiques et théoriques qu'on a évoquées.
Eh bien, merci beaucoup. Générique de fin. C'est moi qui vais le faire maintenant. Oui. C'est la fin de cette émission parce que il est 58, c'est la fin de cette émission. Je vais faire une deuxième émission sur l'inceste, je pense, parce que j'avais 25 questions et j'en ai posé 14. Je suis frustration. Merci beaucoup à nos invités Marion Pollert et Cécile C d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que le travail de Tal intitulé La domination oubliée politisée, les rapports adultes-enfants est disponible en librairie aux éditions Blast, tout comme votre ouvrage Cécile C qui est intitulé donc Ce que Cécile C, journal de sortie d'inceste aux éditions Marabout. Merci encore de vous être joints à nous. Merci à tous de nous avoir écoutés. On revient le 18 mars prochain. On vous tient au courant du thème sur les réseaux. Très bientôt. Merci à nos chroniqueuses Chloé et Alice et à notre réalisatrice Maïwenn. Donc on se retrouve le 18 mars prochain. En attendant, prenez soin de vous. Salut !